Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26 sur RMC. Bon réveil à tous. Bon courage à ceux qui nous attendent. Mais oui, je sais que certains travaillent la nuit, sont avec RMC toute la nuit et attendent notre arrivée en direct. Et on est un peu tous de retour autour de cette table. Je vous cache pas que oui, il y a un petit côté rentrée ce matin. Je suis ravi de vous retrouver dès 4h26. Et je suis évidemment ravi de retrouver Anaïs. Salut Anaïs Castagna.
Salut Charles et bonjour à tous.
Ça va ?
Ravi, ben oui.
Ouais, ravi aussi. Et puis on retrouve Géraldine Demory.
Bonjour tout le monde.
Comment
ça va? Ouais, ça fait plaisir de se retrouver.
Et oui, ça fait très plaisir de vous retrouver, vous, au 32-16. Bah, tiens, venez dire bonjour à Anaïs, à Géraldine. On vous attend, vous qui êtes des fidèles, des leftos. Vous nous avez manqué. Mais oui, certains ont eu quelques jours de repos, de remplacement. Les aléas du planning font que, voilà, on vous retrouve tous ensemble de bon matin aujourd'hui à 4h27. On avait hâte de vous retrouver et on a hâte de vous entendre au 32-16 et de vous lire sur l'appli RMC. Vous connaissez toujours le chemin. Je vois déjà Momo, voilà, un fidèle qui est le veto, qui nous envoie déjà un petit bonjour sur l'appli RMC. Grâce à Direct Studio, on va lire tous vos messages. Racontez-nous ce que vous faites réveiller de si bonne heure. Et puis, on va débattre de toute l'actualité avec vous ce matin, avec vos témoignages. On a une question qu'on va vous poser ce matin. Les militants écolos ont-ils raison de mener des actions de plus en plus radicales?
La COP27 vient de débuter. Les chefs d'État du monde entier sont attendus aujourd'hui en Égypte avec une nouvelle mise en garde sur une accélération du réchauffement climatique. Rendez-vous boycotté par les militants écolos les plus radicaux qui ont multiplié les actions coup de poing ces dernières semaines. Les œuvres d'art aspergées de soupe, compétitions sportives interrompues, routes ou même aéroports bloqués.
Et vous, que pensez-vous de ces actions des écolos? Est-ce qu'ils ont raison là de perturber des matchs, de bloquer des routes, d'asperger des tableaux pour nous alerter, pour alerter l'opinion publique et plus largement cette COP27 qui s'ouvre? Est-ce que le réchauffement vous inquiète? Selon un sondage de l'ADEME, plus d'un Français sur deux se dit directement touché par les conséquences du réchauffement climatique. Je pense notamment à l'été, à la sécheresse qu'on vient de vivre. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez peut-être déjà modifié votre quotidien? Est-ce que vous êtes prêt à faire de nouveaux efforts pour sauver la planète? Est-ce que vous attendez quelque chose de cette COP27, des grandes ce monde qui se réunissent à partir d'aujourd'hui en Égypte? On vous attend au 32-16 et vous n'hésitez pas non plus à nous envoyer des petits messages sur Direct Studio.
Et puis on n'oublie pas tous nos rendez-vous dans mon choix ce matin à 5h10. Je vais vous parler des gros mots que je ne dis jamais. Pourtant, je ferais peut-être bien de m'y mettre parce que ça aussi, ça a du bon au final d'en prononcer. C'est ce que dit une étude britannique. Je vais tout vous expliquer. On va aussi sourire, Charles, parce qu'on va retrouver Julien Cazard et Arnaud Demange, évidemment.
Et oui, nos rendez-vous humour tous les matins sur RMC. C'est ça aussi, c'est l'actualité, le débat, mais aussi le sourire garanti pour bien attaquer la journée.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h42 sur RMC. Alors, les militants écolos ont-ils raison de mener des actions de plus en plus radicales?
C'est la question du jour sur RMC.
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
C'était fin 2015 à Paris, vous l'entendez, Laurent Fabius à l'époque, Ségolène Royal, François Hollande signaient les accords de Paris, les accords de la COP21. Bon, bah, 6 ans plus tard, force est de constater que les objectifs fixés par ces accords de Paris ne sont toujours pas respectés au moment où s'ouvre la COP27 en Égypte.
Oui, la conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh dans un contexte d'urgence climatique avec les feux de forêt qui se sont multipliés cet été, les températures qui s'emballent, les années 2015-2022 sont en passe d'être les 8 années les plus chaudes jamais enregistrées. Autre donnée alarmante, selon le GIEC, la moitié de la population mondiale subit déjà des pénuries d'eau liées au réchauffement climatique et des millions de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire. On est directement menacé puisque l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur les 30 dernières années.
Et on a donc plus de 120 chefs d'État et de gouvernement attendus ce matin en Égypte, mais cette COP27 sera boycottée par les militants écolos les plus engagés, comme la célèbre Greta Thunberg. La militante écologiste estime que cette grand-messe de l'ONU est devenue inutile, qu'elle ne sert qu'à donner une image écolo sans véritables actes.
Oui, d'ailleurs, ces derniers mois, le ton est monté. Les militants écolos les plus radicaux ont multiplié les actions choc en aspergeant des œuvres d'art avec de la soupe, en interrompant des compétitions sportives ou en bloquant notamment des routes. Tiens, samedi, à Paris, une dizaine de militants de dernière rénovation ont bloqué la circulation à proximité du ministère français de l'économie, tandis qu'à Toulouse, d'autres militants du collectif ont interrompu pendant une dizaine de minutes un match de championnat français de rugby entre le Stade Toulousain et le Stade Français en s'attachant au poteau à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Les activistes ont bloqué pendant plus de 3 heures l'aire de stationnement de jets privés. Et à Madrid, 2 militantes se sont collées la main au cadre de tableau de Goya, taguant sur un mur plus 1,5 degré en référence à l'objectif fixé dans l'accord de Paris.
Oui, mais ces actions sont, comment dire, à double tranchant parce qu'elles peuvent braquer, fâcher l'opinion publique, mais elles permettent aussi à ces groupes, à ces militants, d'attirer de nouvelles recrues, de nouveaux militants qui viennent rejoindre leur rang, comme l'a constaté pour RMC Rémi Inc.
Des actions chocs qui peuvent parfois provoquer des tensions, comme avec ces automobilistes bloqués. Ou ces spectateurs d'un match de rugby interrompu. Des actions qui interpellent, qui dérangent. C'est justement ce qui a plu à Marion.
Moi, je pense qu'il faut réagir vachement violemment, en fait, maintenant. Enfin, il y a des trucs qui se passent, qui me choquent tellement, et j'ai l'impression qu'il se passe rien. Je pense que c'est la seule solution, c'est de déranger les autres pour que ça marque, en fait.
Elle n'a aucun passé militant, mais c'est décidé, elle va s'engager.
C'est vraiment que ça m'a donné envie quand j'ai vu tout ça. Et donc, si moi, je peux être une personne de plus pour porter l'info... Carrément quoi.
Des actions qui ne laissent donc personne indifférent. C'est justement l'objectif, rappelle Lolita Troilo, qui étudie les mobilisations contre le changement climatique à l'université de Pau.
Ce type d'action va avoir tendance à polariser l'opinion publique. Des personnes qui étaient plutôt contre vont vraiment le devenir et des personnes qui étaient pour risquent de le devenir aussi encore plus.
Selon une étude récente, 47% des Français placent le changement climatique parmi les enjeux qui les préoccupent le plus, en deuxième position derrière l'augmentation du coût de la vie.
Un reportage signé Rémi Inc, vous entendez hein, cette militante qui dit j'ai pas de passé militant dans aucune assoce, aucun parti politique, mais là j'ai décidé de me bouger de manière radicale pour lutter contre le réchauffement climatique. Que pensez-vous de ces actions des écolos? Est-ce qu'ils ont raison d'être de plus en plus dans la désobéissance civile? Est-ce que s'il n'y a pas aussi un risque de braquer l'opinion publique? Et puis plus largement cette COP27 qui s'ouvre, les grandes ce monde qui se réunissent, 120 chefs d'État qui se réunissent pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous attendez quoi que ce soit de ce genre de grand événement? On va poser la question à Nicolas qui nous appelle au 32-16 ce matin. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On est du côté des Landes, c'est ça avec vous?
Exactement, oui.
Et comment ça va d'abord ce matin Nicolas?
Ça va bien, moi je rentre du travail. Donc
vous avez travaillé cette nuit, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors, je suis opérateur de réaction chimie.
D'accord, et donc vous sortez du boulot là?
Je sors du boulot, je rentre chez moi, j'attaque mon cycle de repos, mon week-end à moi.
On débute le week-end avec vous, samedi matin, Nicolas, en horaire très décalé. Nicolas, qu'est-ce que vous en attendez-vous de cette COP27? Est-ce que vous attendez quoi que ce soit de ce genre de grand raout organisé par l'ONU?
Écoutez, moi, le gros problème, ce sont les enjeux économiques des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Europe, les États-Unis. Comme vous savez, comme la Chine n'hésite pas à polluer... Son air, son environnement, avec ses centrales électriques au charbon, pour produire l'électricité, pour faire tourner son industrie, quand vous avez des cours d'eau qui sont pollués pour l'industrie textile. Après, aussi en Afrique, vous avez pour l'industrie du cacao. Mmh. On n'hésite pas à raser des forêts pour faire pousser des plants de cacao, ou à polluer, empêcher un cycle naturel des arbres entre
Nicolas,
le renouvellement de monoxyde de carbone.
Vous avez raison de le dire.
Pareil à l'Amazonie. Donc, au bout d'un moment, jamais vous allez me convaincre en me disant que la COP27, si ces pays font des efforts en disant on va faire quelque chose en sorte pour moins polluer, ouais, pour l'avenir de la société, moi je veux bien. Au niveau français, au niveau européen, prendre de la peinture, le jeter sur les tableaux, bloquer des événements sportifs comme cet été, le Tour de France. Ouais. Ça fait du buzz, ça fait parler, ça éveille les consciences, mais les gouvernements mondiaux, chinois, russes, enfin, peu importe, j'en sais rien, français aussi, ils s'en foutent complètement pour moi, quoi.
Vous pensez pas qu'il s'est passé quelque chose cette année avec justement l'été qu'on a vécu, les feux de forêt, la sécheresse historique?
Au niveau français, oui. Moi, la Gironde, j'ai très bien vu, des Landes, on sentait la cendre. On s'en rend compte. Nous, on s'en rend très bien compte. Est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire quelque chose? Non. Et je pense que nous, en France, on fait déjà beaucoup. Après, les éoliennes, je ne suis pas spécialement pour, mais bon, c'est un autre débat.
Vous avez raison, Nicolas. Après, il n'y a pas que la Chine qui pollue, quoi. L'Europe a aussi
du
boulot à faire. Et puis, justement, ces COP, c'est l'occasion de mettre les Chinois, de dialoguer avec eux, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? D'obliger les Chinois à prendre des engagements. Alors après, est-ce qu'ils les respectent ou pas? C'est tout le problème. Moi, je trouve de ces COP, c'est que c'est plein de bonnes intentions. On signe des très jolis accords à la fin, et puis on se rend compte, 2, 3, 4 ans plus tard, qu'on n'a pas respecté les objectifs.
Elle avait voulu créer ses centrales électriques. Alors, la France avait dit, on vous permet de créer des centrales électriques qui génèrent 20% de CO2 en moins. Mmh. Et sinon, on dit, OK, d'accord, mais niveau vous sur le prix. On a dit, non, c'est pas possible parce que ça coûte plus cher. Et elle se dit, ben, merci, au revoir. On peut pas. C'est un problème économique. Et alors, à mes yeux, c'est juste un problème économique.
Mais alors, si on revient du point de vue des militants écolos, j'ai envie de vous dire, Nicolas, ça fonctionne leur méthode parce qu'on en parle beaucoup, mine de rien. Personne n'a pu échapper à ces. Bah oui, c'est leur but. Ils disent aujourd'hui, on alerte les dirigeants depuis des années, ça change rien. Désormais, on alerte l'opinion publique, quoi.
Mais l'opinion publique, monsieur tout le monde, je vais exagérer dans mes propos, mais une personne qui est sur l'autoroute, elle voit quelqu'un allongé, derrière, il y a sa femme qui est enceinte, il va l'écraser, quoi.
Ouais, n'exagérons rien. Enfin,
ouais, mais oui, j'en fais exprès, évidemment.
Non, mais oui, on n'arrivera pas là, mais je comprends. Vous dites, ça peut se retourner contre eux, ça peut être contre-productif, c'est ça? Mais vous, personnellement, Nicolas, quand vous voyez ces images, vous vous dites, ouais, c'est vrai qu'ils ont raison, il faut se bouger, ou est-ce que ça vous agace?
Non, je me dis pas qu'ils ont raison.
Alors, est-ce qu'à l'inverse, ça vous agace?
Dans leur méthodologie, dans leurs idées, oui, dans la méthode, non.
Ouais, c'est tout le problème de la méthode qui fait pas l'unanimité, hein.
Ouais, Géraldine Domory est avec nous, vous savez quoi, Nicolas, là, depuis tout à l'heure. Alors, je la vois qui bouillonne sur ces questions de réchauffement climatique. Nicolas, il a raison, Géraldine, c'est peut-être aux Chinois de faire un effort désormais, non?
C'est à tout le monde, mais on peut pas dire que parce que les Chinois font pas assez, nous, on se dédouane. Parce que les Chinois, ils polluent beaucoup aussi.
Je dis, en France, on en fait déjà pas mal.
On en fait déjà pas mal, mais on en fait pas assez encore. Je pense qu'on peut encore en faire. Et c'est pas tout blanc ou tout noir, le réchauffement, en fait. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de le limiter, c'est ça, de gagner. Donc
Oui, mais qu'on soit pas les seuls à faire les efforts, si je comprends bien le message.
L'effort, on le fait déjà.
De Nicolas. Alors, oui.
Je pense très honnêtement que les sociétés françaises se sont mises en difficulté financière en essayant de faire des efforts. J'en suis, moi, convaincu. Moi, par exemple, la société pour laquelle je travaille, elle investit pour le traitement pour le rejet de l'eau.
Oui, c'est tant mieux, non?
Bah oui, mais nous, on le voit très bien. On voit qu'il y a des efforts de fait.
Oui, il y a déjà des efforts, c'est vrai.
Il faut se dire aussi que ce qui peut coûter un peu cher maintenant, c'est de l'argent qui sera économisé plus tard dans des morts qui n'auront pas lieu, dans des maladies qui n'auront pas lieu, des dégâts qui n'auront pas lieu.
Alors, écoutez, la société pour laquelle je travaille, elle est société internationale. On a eu on a eu une sorte de vidéo qui nous expliquait quels étaient les efforts qui ont été faits. C'est pas compliqué. Vous avez des purgeurs d'eau de vapeur quand ils sont pas étanches, c'est d'énergie, c'est du gaz qu'on brûle pour rien. C'est des fuites de vapeur, donc on fait tourner les centrales à gaz pour rien. Donc il y a des investissements qui sont faits, mais derrière il y a des économies qui sont faites sur l'énergie. Mais c'est fait à notre niveau.
Donc pour vous, voilà, la France fait déjà des efforts, mais tant mieux. Oui, c'est bien d'être exemplaire. Il faut continuer. Si je poursuis le message de Géraldine, bon, ça c'est l'aspect COP, mais il y a aussi l'aspect militant. Est-ce que c'est efficace, les actions des militants écolos? Nicolas nous dit non. En tout cas, il nous dit que ça risque plutôt de braquer, d'agacer l'opinion publique, même si sur le fond ils ont raison, et ça tout le monde semble le reconnaître. Mais est-ce que c'est la bonne méthode de perturber les événements sportifs, de bloquer les routes? Est-ce que vous y êtes sensible? Vous venez nous le dire ce matin, comme Nicolas, vous venez témoigner évidemment en toute liberté au 32-16. On va reparler avec vous tout au long de la matinée sur RMC, mais à 14h52. Ne bougez pas parce qu'il va y avoir la voix du jour dans quelques minutes, juste après 5h. Et puis, le choix d'Anaïs.
On va parler des gros mots parce que je sais ce qu'on dit aux tout petits. Les gros mots, c'est mal poli, il ne faut pas en dire, mais les gros mots, ça a aussi du bon. Ça nous rend plus persuasifs et ça nous aide à moins souffrir.
Alors Anaïs vous dit plein de gros mots juste après 5h, mais tout de suite, on va sourire avec le meilleur de Julien Cazard.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin. En novembre, le 15 de France fait sa rentrée avec la tournée d'automne.
Encore deux test matchs. Samedi, France, Afrique du Sud. Et le 20 novembre, France, Japon.
La tournée d'automne de l'équipe de France de rugby est sur RMC, numéro 1 sur le sport.
Prenez le départ avec l'Ultimate Cup Series et RMC. Plongez dans l'univers du sport auto avec les plus grands pilotes et les plus beaux circuits. Paul Ricard, Navarra, Hockenheim, Manicourt ou le Castellet. Étape finale de vendredi à dimanche au circuit Paul Ricard avant la nouvelle saison 2023. Info et résa sur series.ultimatecup.racing avec RMC.
à 4h53. Si vous venez de vous réveiller, on fait un point sur les trois infos à la une ce matin, Anaïs.
Les ménages modestes se chauffant au fioul vont toucher une aide comprise entre 100 et 200 euros à partir d'aujourd'hui, une aide versée automatiquement ou à demander en ligne. Si vous n'avez jamais utilisé un chèque énergie, 1 400 000 foyers sont éligibles. Une information RMC Sport, à deux semaines du mondial de foot au Qatar, Olivier Giroud fera partie de la liste annoncée par Didier Deschamps mercredi soir. Daniel Riolo s'en réjouit.
C'est une très bonne nouvelle parce qu'il le mérite. C'était franchement injuste qu'il y ait eu l'idée que peut-être il n'irait pas. Heureusement que tout a changé. Très très bonne nouvelle.
On l'entendra dans le journal de 5h. Et puis l'OM s'est imposé face à l'OL hier en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Victoire 1-0 qui redonne le moral aux Marseillais après leur élimination de la Ligue des Champions.
Et bien justement, puisque tu parles de l'OM, c'est l'heure de retrouver le meilleur de Julien Cazard. L'OM a gagné hier soir 1-0 face à Lyon grâce à un but de Samuel Gigot. L'occasion de réécouter le magnifique hommage que lui avait rendu Julien il y a quelques semaines quand Samuel Gigot avait pris un carton rouge en taclant Neymar.
RMC, le Cazard enchaîné.
Notre opération, il n'y avait pas rouge pour Gigot, continue. Et pour finir, nous avons prévu une petite chanson de soutien. Ah. Oui, pour soutenir, pour faire bouger les choses. Allez, on est avec toi, Samuel.
Moi, je file un rancard à tous les Olympiens. Soprano, Gros Samir, Jules, qui veulent buter Turpin. Si on peut plus lancer les pieds en mode hachoir, comment on va le calmer, cet enfoiré de Neymar?
C'est pas vraiment qu'à faute, il le touche même pas. Qu'il arrête de chialer, la danseuse de samba. Samuel, il est gentil, il pense pas à faire mal. D'ailleurs, il pense jamais, vu que c'est un animal.
Y'a rien à dire, hein. Très très moyen sur ces deux interventions.
Ça va taxer fort.
Carton rouge.
Oh Gigot, carton rouge. Oh, l'attentat de Gigot sur Neymar.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit de déchiqueter un tibia. Les ballerines, danseuses d'opéra, si on les taille plus, ça sert à quoi? Eric Basile, Carlos Moser, mais entendez-vous nos prières? Le foot, c'est pas un sport de jbeb. Quand faut tacler, t'y vas comme un deb. Aujourd'hui, libéré Gigot, y'avait pas rouge, bande de salauds.
Les Lesages, les Turpins, pensez aux petits métiers. Tripier, carisseur, boucher, charcutier.
On peut pas dire qu'il y a rouge si le mec est pas mort. On peut pas dire qu'il y a faute s'il respire encore.
Non, c'est pas touché.
Mauvais geste de Gigot, clairement.
Oh Gigot, carton rouge. Oh, l'attentat de Gigot sur Neymar.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni au rotule ni au tibia. Les crampons, tout ça sert à quoi? C'est pas des Converse ou des Véja. Si on peut plus viser le ballon, nous on fait quoi?
On joue le ballon?
Puis ça devient un Picasso. Il est cubiste, Samuel Gigot. Aujourd'hui, libéré Gigot, y'avait pas rouge, bande de salauds.
C'est le Cazard enchaîné.
Voilà, l'hommage de Julien Cazard à Samuel Gigot qui s'est bien rattrapé hier soir. Samuel Gigot, buteur donc lors de la victoire marseillaise dans l'Olympico, comme on dit, face à l'OL hier soir au Vélodrome. Victoire 1-0 de l'OM. 4h57 sur RMC, les infos, la météo approche. Mais comme tous les matins, c'est l'heure du réveil en musique de toute l'équipe.
RMC, la playlist de Charles Matin.
Eh oui, toute la bande qui nous rejoint autour de la table pour partager son humeur en musique de bon matin. Bah tiens, Anaïs, pour ton retour, c'est l'occasion. C'est toi qui commence. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter?
J'ai envie d'écouter Heroes de David Bowie. Hier, je suis allée à l'exposition Tintin à l'Atelier des Lumières et qui avait cette formidable chanson que j'adore. Et voilà, c'était génial. Donc, j'avais envie de vous faire partager ce moment. Et surtout, je vous recommande, Charles, je sais que tu y es allé.
Ah oui.
Et c'est top à l'Atelier des Lumières à Paris. Franchement,
c'est recommandé, validé par toute l'équipe.
Courez-y.
Oui, avec les enfants.
Ouais, mais même, attends, sans les enfants, attends, c'est tous les âges.
Oui, c'est vrai, mais ça marche très bien avec les enfants, cet atelier des lumières et avec une très bonne bande son. Et puis Géraldine Demory, toi aussi, t'es de retour, donc toi aussi ce matin, tu partages avec nous ton coup de cœur musical.
Oui, moi j'avais envie d'écouter Superbus Butterfly. Voilà, donc vous avez compris le titre, hein, Butterfly, je pense qu'elle le répète assez. Bon voilà, je trouve que c'est frais pour commencer la semaine, chanson que j'aime bien. Effectivement, je n'ai pas entendu depuis un petit moment, mais...
écoute, je sens que ça te fait plaisir, Géraldine.
Ouais.
Bah, comme t'es rend.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h09 sur RMC et j'espère que les enfants dorment encore. C'est l'heure d'écarter les oreilles sensibles du poste.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Oui, parce qu'Anaïs, ce matin, une fois n'est pas coutume, tu as choisi de faire l'apologie des gros mots.
Sac à merde, c'est une insulte. On va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. Gros con de tête de merde, qui pue le vomi
de raclure de bidet.
Ah, vous arrêtez, vous, je vous le dis, vous arrêtez, hein. On arrête.
Voilà, la scène de l'huissier dans Les Trois Frères, j'ai reconnu, j'adore, un de mes films préférés. Bon, bon réveil, avec ces mots fleuris. Non, mais ce qu'il faut retenir, Anaïs, c'est que les jurons, les gros mots ont du bon.
Oui, c'est ce que nous dit une étude britannique publiée dans la revue Lingua, étude que j'ai lue avec beaucoup d'attention parce que les gros mots, c'est mal poli, c'est ce qu'on nous a toujours appris.
Trou du cul, putain, merde, bordel.
Et c'est pour ça que mon compagnon se bat pour que mes enfants n'en prononcent pas à la maison. Le problème, c'est lorsqu'il conduit.
C'est mon papa parce qu'à chaque fois, dans sa voiture, il n'arrête pas de dire des gros mots.
Sans blague. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans sa voiture ?
Merde, espèce de connasse.
Et si toi, tu dis comme lui ?
Jamais connasse, moi.
Charles est en train de se décomposer. Alors certes,
en tout cas, je m'identifie tout. Mes enfants pourraient tout à fait faire le même témoignage. Bah,
évidemment. Certes, c'est pas joli, mais ça peut aussi nous servir. D'abord, ça nous aide à supporter la douleur. Une étude, un scientifique britannique a demandé à une soixantaine d'individus de plonger leurs mains dans de l'eau glacée et de rester le plus longtemps possible. Lorsqu'ils avaient le droit de dire des jurons, eh bien, c'était beaucoup plus facile. Ils tenaient 40 secondes de plus, ce qui explique qu'on dise des gros mots dès qu'on se fait mal. Ça déclenche une poussée d'adrénaline qui nous soulage, mais ce n'est pas tout. Les gros mots nous rendraient aussi plus persuasifs, ça nous donne de la force, peut-être parce qu'on nous fait quelque chose qu'on nous a interdit de faire depuis tout petit, et puis ça aurait aussi un effet sur notre discours. On croit davantage quelqu'un qui utilise des jurons. C'est peut-être pour ça que les politiques les utilisent. Oui, on se souvient notamment du « casse-toi pauvre con ».
Ah oui, notamment, oui, je pense à ces noms d'oiseaux qui volent parfois aussi dans le.
Emmanuel Macron aussi, on a déjà utilisé.
C'est vrai, ça arrive souvent aux politiques, oui, pour se faire entendre d'utiliser des gros mots. Mais attention, nous dit aussi cette étude, il ne faut pas en abuser.
Oui, parce que si tu te mets à dire des grossièretés toutes les deux secondes, je serais habitué, Charles. Et je me dirais juste que tu es quelqu'un de vulgaire et d'inadapté à la société. Même si ça fait quand même du bien de te défouler. Par exemple, quand tu bricoles à la maison.
Tu vas marcher, saloperie de chiotte, électricité de merde.
Eh ben oui, ça arrive. Au volant, ce qui revient le plus souvent, c'est co, un mot qui commence par co et qui finit par ar, hein.
Connard.
Et voilà.
Ah, pardon, ah, c'est bon, j'ai un point.
Ouais,
j'aime bien ce quiz,
voilà,
moi.
C'est ça. Voilà. Au boulot, c'est un mot qui commence par pu et qui finit par teint.
Oui, bah ok, voilà. On l'a.
Il y a aussi fait, et puis un mot qui fait chier. Voilà, on peut le dire tout simplement. Okay. C'est vrai qu'on n'est pas très très à l'aise. Pourtant, ces gros mots, ils datent pas d'hier. On trouve putain dans des textes qui datent du 10e siècle. Mais si vous voulez vous défouler et faire moins vulgaire, il y a toujours les utes, les flûtes qu'on essaie d'employer en présence des enfants. Même si c'est pas toujours évident. Plus original, les noms d'oiseaux du capitaine Haddock dans Tintin, à ressortir dès que quelqu'un t'insulte au volant.
Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustien.
Ah, c'est quand même mieux, non, Charles?
C'est vrai, il faut que j'adopte ce nouveau réflexe au volant.
Flibustier.
Oui, oui, ou même dire zut et flûte avec les autres. Mais...
En général, ça commence par pure flûte.
Oui, mercredi, voilà, on a tous fait ça avec les enfants. Il est 5h12 sur RMC, on va essayer d'être poli en accueillant poliment Jean-Pierre au 32-16 qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Charles, bonjour Anaïs,
bonjour à toute l'équipe.
Alors Jean-Pierre, ce qui vous a fait appeler ce matin, ce qui vous a fait réagir au 32-16, c'est bon, il y a l'actualité, hein, cette COP27 qui s'ouvre aujourd'hui en Égypte, les grandes ce monde, les chefs d'État qui se réunissent pour apporter de nouvelles réponses, on va le dire comme ça, face au réchauffement climatique. Et dans le même temps, les militants écolos les plus radicaux qui, eux, choisissent de boycotter cet événement, qui disent ça sert à rien, c'est que de la com, et qui préfèrent mener des actions de plus en plus radicales, de la désobéissance civile un peu partout en Europe. On a vu des événements sportifs perturbés, on a vu la soupe sur les tableaux, on a vu des routes, un aéroport à Amsterdam qui a été bloqué ce week-end. Est-ce que les militants écolos ont raison de durcir leurs actions, Jean-Pierre ?
Bah, tout ce qui est extrémisme, on peut pas leur donner raison, malheureusement. Même si on peut comprendre leur cause et tout ça, mais ça reste de l'extrême et ça risque de très très mal finir à un moment parce que alors, on commence à voir les gens excédés.
J'aimerais quand même préciser que dans toutes ces actions, il n'y a pas de violence, ils ne font mal à personne. J'aime toujours le préciser. Ils ne font mal à personne. En tout cas, ils ne commettent pas de violence. Ce sont des actions qui se veulent non violentes et pacifiques et qui, à leurs yeux, sont plus efficaces pour faire le buzz, pour alerter l'opinion publique.
Ça, pour faire le buzz, c'est clair que ça fait le buzz, ça fait parler.
Ben mais preuve,
après, moi, ce qui me fait peur, c'est surtout pour eux, ils mettent leur vie en danger quand même, et puis ils peuvent arriver à un moment, ils peuvent tomber sur des gens qui ne comprennent pas et qui, lassés d'être depuis 45 minutes dans leur voiture, sur périph' ou ce genre de choses, en venir, on a quand même vu des images où les gens commençaient à être excédés. Ouais. Et après, presque en venir aux mains, donc c'est pas non plus la solution d'en arriver là.
Oui, mais même si après, sur le fond, Jean-Pierre, c'est difficile de leur donner tort, sur le fond de leur discours. Voilà, c'est tout
complètement,
problème.
Complètement. Mais moi, le premier. Mais vous savez, on est pris dans une économie mondiale. Je vais vous donner mon cas. Moi, ce matin, il faut que j'aille en Belgique. Mmh. Et ben, je vais y aller en voiture parce qu'on est quatre, on a beaucoup de matériel à transporter et que par le train, c'est pas possible et par l'avion, c'est pas possible. Donc voilà, on est dans une économie mondiale, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Est-ce que les gens sont prêts à se couper de plein de choses parce qu'on a vécu très bien pendant des années sans se soucier réellement de l'écologie. Quand on voit la fast fashion qui cartonne sur les sites internet tels que le site, je ferai pas la pub, mais
vous avez un pull aujourd'hui
Shine, exactement, les prix cassés quand on sait comment c'est produit. Alors beaucoup de gens pensent que c'est produit en Chine, je les rassure, c'est plus produit en Chine, à ce prix-là c'est plus possible en Chine pour y avoir vécu, donc voilà, c'est
cette contradiction entre des jeunes ou même des moins jeunes qui vont acheter 15 t-shirts par mois et qui en même temps vont manifester pour le climat. Dans ces contradictions. Mais Jean-Pierre, au-delà de ça, ce que vous dites très bien, c'est on utilise des mots comme sobriété, ralentir. La vérité, c'est est-ce qu'on est prêt à perdre un peu en confort, en fait?
Exactement. Est-ce qu'on est, on le voit déjà avec l'énergie maintenant. Les gens râlent, on va pas pouvoir chauffer, on va pas. Mais faut être conscient que si on veut vraiment faire un virage à 360 degrés sur plein de choses, et ben ça va y passer par un petit peu moins de confort, un peu moins d'achats compulsifs, peut-être pas s'acheter le dernier iPhone parce que on en a pas forcément l'utilité et que le nôtre marche encore bien. Enfin voilà, ce genre
vous
de choses.
Vous-même, vous êtes exemplaire, Jean-Pierre.
Ah non, loin de là, je vous ai dit, je prends ma voiture pour aller en Belgique aujourd'hui, donc je fais l'aller-retour dans la journée, je suis loin d'être exemplaire.
Oui, mais vous en êtes conscient en tout cas, Jean-Pierre.
Ça veut dire conscient.
Non, mais c'est très bête, mais on a tous pris conscience, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, vous auriez pris votre voiture sans vous poser une seule question, là vous dites, c'est peut-être pas terrible au niveau du bilan carbone. C'est que, tout le monde, en tout cas, il y a une prise de conscience générale. Après, le problème, c'est d'où vient la solution? Est-ce qu'il faut tout remettre dans les mains des chefs d'État et espérer que la COP27 trouve la solution miracle et l'engagement miracle et qu'ils se mettent tous d'accord? Ou est-ce que la solution vient de chacun de nous? Et c'est un peu ce que disent les militants écolos. Ils disent, pour faire bouger les choses, il faut que chacun se bouge.
Tout à fait. Il faut que chacun, à son niveau, essaye de faire quelque chose. Moi, je vous avoue, ça fait 4 ans que je n'ai pas acheté de vêtements. Donc,
bravo.
D'un côté, je me contente des vêtements que j'ai. Ils sont très bien. Tant qu'ils ne sont pas abîmés, on les remet. Et puis voilà.
Mais ça marche aussi avec plein de choses. C'est aussi de réparer les appareils qui ne fonctionnent plus. Vous avez raison de ne pas acheter le dernier smartphone, etc. Mais alors, après, Jean-Pierre, il y a un terme là, que vous avez utilisé et que j'ai utilisé aussi pour qualifier les militants les plus radicaux. On a dit extrémistes. Et ça a fait réagir Stéphane, là, je vois sur Direct Studio, qui dit vous parlez d'extrémistes pour qualifier les militants. Mais les extrémistes ne sont-ils pas ceux qui conduisent leur voiture tous les jours, polluent et tuent 48 000 personnes par an avec la pollution de l'air? Vous voyez ce que je veux dire? Pour les militants écolos, ils n'ont pas le sentiment d'être extrémistes ou d'être violents. Ils ont le sentiment qu'ils sont juste en train d'alerter sur une urgence.
Ouais, mais ils emploient des méthodes qu'on peut considérer radicales. Donc, quand on est radical, on est extrémiste. Bien sûr que ceux qui utilisent leur voiture tous les jours sont peut-être feront partie de cela. Ils n'ont pas pris conscience encore. Il y a d'autres moyens. Moi, je l'utilise pas au quotidien parce que j'ai la chance d'habiter en région parisienne. On a quand même des transports assez. Mais quand vous habitez, moi j'ai un ami qui habite au fin fond du trou du cul du monde. Il n'a pas le choix. Il est obligé de faire 100 bornes aller-retour tous les jours pour aller bosser.
Oui, et puis c'est le discours qui nous culpabilise en permanence, c'est très bien, mais il faut proposer à côté des solutions. C'est aussi tout le problème. On peut pas juste dire aux gens c'est mal. Il faut leur dire voilà comment on peut mieux faire. C'est tout le problème.
Oui, et parfois c'est un problème financier. Par exemple, on parle du train. Le train, beaucoup trouvent que c'est encore trop cher.
Trop cher. Ouais, bien sûr. Moi, ça me coûte moins cher d'aller en Belgique en voiture que de prendre le train.
C'est tout.
À 3, ça nous coûtait 500 euros. La voiture, l'aller-retour, ça va nous faire un plein et 40 euros de péage.
Un excellent résumé de la situation. Même quand on veut faire des efforts, c'est compliqué. Merci Jean-Pierre d'être passé nous dire que oui, ces militants ont raison sûrement sur le fond, mais que vous trouvez leur méthode trop radicale, trop extrémiste à votre goût, même si vous ne vous faites pas non plus d'illusions sur ce qui va se passer aujourd'hui à la COP27. On va voir ce que chacun en pense ce matin. Vous n'hésitez pas, d'accord ou pas, avec Jean-Pierre qu'on remercie. Merci Jean-Pierre d'être passé par le 32-16. Bonne route jusqu'en Belgique. Vous pouvez écouter RMC, ça c'est gratuit, ça pollue pas dans la voiture. RMC pour vous accompagner pour ce déplacement. On salue tout le monde, du coup les collègues qui vont voyager avec vous dans la voiture. Et puis vous aussi, comme Jean-Pierre, vous composez le 32-16 ce matin pour nous dire ce que vous attendez ou pas de cette COP27 et puis surtout pour nous dire ce que vous pensez des méthodes de plus en plus radicales des militants écolos pour nous alerter sur le réchauffement climatique. Vous prenez la parole en toute liberté au 32-16 où vous nous envoyez des petits messages en direct sur l'appli RMC avec Direct Studio. On les lit tous les matins évidemment à l'antenne. Et puis tout de suite, on va aussi dans toute cette actualité, sourire un peu, se détendre grâce au meilleur d'Arnaud Demange sur RMC.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
À 17 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux travailleurs migrants se plaignent du non-paiement de leur salaire.
Incroyable. Déjà, vous êtes vivants, les gars. Alors, commencez pas à réclamer des salaires en plus, les wokistes. Comme les travailleurs sont payés en moyenne 57 centimes de l'heure, si ça se trouve, ils ont été payés, c'est juste qu'ils ne l'ont pas remarqué. Faut pas savoir. Ça doit être compliqué de remplir une plainte au Qatar. Hein. Bonjour. Vous êtes bien au bureau des plaintes pour travailleurs immigrés. Si vous souhaitez déposer une plainte pour non-paiement des salaires, vous pouvez raccrocher. Si vous souhaitez déposer une plainte pour accident du travail, vous pouvez raccrocher. Pour toute autre demande, veuillez patienter. Voilà, maintenant vous pouvez raccrocher. C'est la question du moment en fait. Le Qatar, faut-il y aller ou pas? Alors il y a ceux qui s'en foutent et il y a ceux qui préfèrent éviter, comme N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Alors vous dites c'est à cause de leur genou, mais c'est parce que chez le footballeur, la conscience sociale est dans le genou en fait. Elle ne monte pas jusqu'au cerveau, c'est le genou qui
ça
décide.
Ça doit être ça. Et puis on conclut cette semaine de la Toussaint. Arnaud, vous vouliez absolument nous parler de cette invention française, le corbillard bicyclette, créé par une Française, donc Isabelle Plumereau. Elle a appelé ça le corbicyclette.
À bicyclette.
Voilà, et non pas le corbé-cyclette, ça c'est quand on fait du vélo avec Philippe Corpé. On y va en tandem pour faire un pique-nique. Là, c'est le corbicyclette. Le défunt est allongé dans une élégante caisse en bois et amené avec une sorte de triporteur jusqu'au cimetière. Ouais. Alors, pas jusqu'au crématorium. Hein. Ça sert à rien d'opter pour un corbillard éco-responsable si c'est pour finir avec un bilan carbone dégueulasse. Mais voilà, on fera peut-être tous notre dernier voyage à vélo dans une petite caisse en bois. Enfin, sauf Johanna qui tient dans le petit panier qui est à l'avant sur le guidon. Là, c'est comme les livreurs Deliveroo, mais tu remplaces les sushis par nos chers disparus. Hubert Corbillard viendra chercher nos défunts chez nous en 30 minutes pour les emmener. Faudra pas confondre les livraisons. Hein. Hubert Corbillard qui vient chercher ton urne et Uber Eats qui t'apporte ta bouffe, ne mélange pas, sinon tu vas manger tes morts, comme dirait Daniel Obono. À Paris, ça peut cartonner un truc comme ça, parce qu'avec les embouteillages, le trajet en corbillard voiture, c'est long, c'est tellement long, le temps d'arriver, t'as 2-3 autres personnes du cortège qui sont mortes de vieillesse, donc c'est mieux de passer par les pistes cyclables. En Haute-Savoie, par contre, je ne sais pas si ça peut marcher, un truc comme ça, si ton oncle Robert, 114 kilos, est décédé, que le cimetière se trouve en haut de la vallée et qu'il faut se taper 40 bornes en pente. T'as intérêt à avoir travaillé tes mollets, hein. Pareil, pensez aussi à bien fixer le cercueil au corbillard si vous êtes en descente. Parce que si ça lâche, papy va arriver avant tout le monde à l'enterrement. Poum, dans la pierre tombale, ding, dans le trou, jackpot. Enfin voilà. C'était une très belle invention, il fallait le saluer, c'est français. Cocorico.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et oui, c'est tous les jours. Et donc, on a hâte de retrouver Arnaud tout à l'heure en direct avec Apolline. Apolline de Malherbe, tout à l'heure. Les rendez-vous d'Arnaud, vous les connaissez. 7h20, 8h20 en direct. Dans Apolline Matin, à 5h25, c'est l'heure de récompenser les leftos.
RMC, la voix du jour.
Et c'est Mickaël qui a été le plus rapide ce matin au 32-16. On est du côté de Guignon, c'est ça, avec Mickaël. Bonjour, Mickaël.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ce matin, Mickaël?
Bien, et vous?
Bah, nous, ça va très bien. Vous venez de vous lever, là, pour le boulot?
Non, je suis au boulot depuis 20h15 hier.
Oh, ah oui, donc on est sur la fin de la nuit de travail, si j'ai bien compris.
C'est ça, 8h15, ouais.
C'est ça, et bah, RMC vous accompagne toute la nuit, et puis de bon matin. Et Mickaël, vous avez joué?
Et vous pensez, oui, avoir reconnu la voix du jour. On va voir si vous allez terminer votre journée de boulot en beauté. On va réécouter la voix de la personnalité qu'on a entendue juste après les infos de 5h. On aura votre réponse dans la foulée.
Le pays qui s'en sort le mieux sur l'inflation, c'est la France. Et le problème stratégique qu'il faut que nous arrivions à régler tous les pays européens, les 27, c'est ramener l'inflation à un niveau plus raisonnable dans les meilleurs délais possibles.
Alors Mickaël, qui parle d'inflation ?
C'est Bruno Le Maire.
Bravo Mickaël, le ministre de l'économie qui tiendra ce matin en direct sur RMC face à Apolline, l'invité du face-à-face à 8h30 sur RMC et BFM TV. Mais dès maintenant, là, dès 5h26, Mickaël, Bruno Le Maire vous permet de remporter
une mini enceinte portable Sony pour nous écouter tout au long de la journée.
Et ben voilà Mickaël, on vous envoie votre enceinte du côté de Guignon. Et je ne sais pas ce qu'on vous dit du coup à cette heure-ci. Bonne journée, bonne nuit.
Bonne nuit.
Bonne nuit. Ok, bah bonne nuit pour vous, Mickaël.
Merci
évidemment.
Beaucoup, bonjour à tous.
On vous accompagne au boulot. Ciao, Mickaël. Et la voix du jour qui revient évidemment dès demain pour récompenser les leftos. Vous connaissez le rendez-vous sur RMC, 5h26. Le journal de 5h30 approche. Mais d'abord, le petit bonus. Tous les matins avec Anaïs, une star du rap a fait son entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame ce week-end à New York.
Oui, le Rock'n'Roll Hall of Fame, c'est le panthéon américain du rock et de la musique populaire. Il accueille chaque année de nouveaux artistes et non des moindres. En 2022, Eminem y fait son entrée. Eminem qui est monté sur scène en chantant. Il entre au Rock'n'Roll Hall of Fame à 50 ans, l'âge minimum requis. Autre grosse vedette à faire partie de la promo 2022, la star de la pop et de la soul, Lionel Richie. Mais aussi la reine de la country, Dolly Parton. Et le duo britannique Aerosmith. Qui a Aerosmith qui a chanté
Eurythmics.
Eurythmics, pardon. Qui a chanté on sent que t'adores, Charles.
Ah, j'adore Eurythmics.
Ouais, et notamment celle-là, je suis sûr. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Belle promo. Belle promo 2022 pour ce Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est toujours un petit événement attendu, de l'entrée des artistes au panthéon de la musique américaine. Et ouais, belle promo, hein. Eminem, Lionel Richie, Dolly Parton et donc les Britanniques de Eurythmics qui font leur entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame. Et ça permet d'écouter de la bonne musique de bon matin sur RMC. Il est 5h28 dans un instant. Les infos et la météo.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
5h40 sur RMC. Alors, les militants écolos ont-ils raison de mener des actions de plus en plus radicales ?
C'est la question du jour sur RMC.
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
C'était fin 2015 à Paris. Laurent Fabius, Ségolène Royal, François Hollande signaient les accords de la COP21. Nous sommes 7 ans plus tard et les objectifs fixés par ces accords de Paris ne sont toujours pas respectés alors que s'ouvre aujourd'hui en Égypte la COP27.
La conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte donc hier à Sharm el-Sheikh dans un contexte d'urgence climatique avec les feux de forêt qui se sont multipliés cet été, les températures qui s'emballent. Les années 2015-2022 sont en passe d'être les 8 années les plus chaudes jamais enregistrées. Autre donnée alarmante, selon le GIEC, la moitié de la population mondiale subit déjà des pénuries d'eau liées au réchauffement climatique et des millions de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire. On est directement menacée, puisque l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur les 30 dernières années.
On a donc 120 chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus aujourd'hui en Égypte, mais cette COP27 sera boycottée par les militants écolos les plus engagés, comme la célèbre Greta Thunberg. Elle estime que cette grand messe de l'ONU est devenue inutile, qu'elle ne sert qu'à donner une image écolo sans véritables actions derrière.
Oui, d'ailleurs, ces derniers mois, le ton est monté. Les militants écolos les plus radicaux ont multiplié les actions choc en aspergeant des œuvres d'art avec de la soupe, en interrompant des compétitions sportives, notamment samedi à Paris. Une dizaine de militants de dernière rénovation ont bloqué la circulation à proximité du ministère français de l'économie. Tandis qu'à Toulouse, d'autres militants du collectif ont interrompu pendant une dizaine de minutes un match de championnat français de rugby de top 14 entre le stade toulousain et le stade français en s'attachant au poteau. À l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, des activistes ont bloqué pendant 3 heures l'aire de stationnement de jets privés. Et à Madrid, 2 militantes se sont collées la main au cadre de tableaux de Goya, taguant sur un mur plus 1,5 degré en référence à l'objectif fixé dans l'accord de Paris.
Ouais, des actions à double tranchant. Elles peuvent braquer l'opinion publique, mais elles permettent aussi à ces groupes d'attirer de nouveaux militants, comme a pu le constater pour RMC Rémi Link.
Des actions choc qui peuvent parfois provoquer des tensions, comme avec ces automobilistes bloqués.
Dégage de là !
Ou ces spectateurs d'un match de rugby interrompu. Des actions qui interpellent, qui dérangent. C'est justement ce qui a plu à Marion.
Moi, je pense qu'il faut réagir vachement violemment, en fait, maintenant. Enfin, il y a des trucs qui se passent, qui me choquent tellement, et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Je pense que c'est la seule solution, c'est de déranger les autres pour que ça marque, en fait.
Elle n'a aucun passé militant, mais c'est décidé, elle va s'engager.
C'est vraiment que ça m'a donné envie quand j'ai vu tout ça. Et donc, si moi, je peux être une personne de plus pour porter l'info... Carrément, quoi.
Des actions qui ne laissent donc personne indifférent. C'est justement l'objectif, rappelle Lolita Troilo, qui étudie les mobilisations contre le changement climatique à l'université de Pau.
Ce type d'action va avoir tendance à polariser l'opinion publique. Des personnes qui étaient plutôt contre vont vraiment le devenir et des personnes qui étaient pour risquent de le devenir aussi encore plus.
Selon une étude récente, 47% des Français placent le changement climatique parmi les enjeux qui les préoccupent le plus, en deuxième position derrière l'augmentation du coût de la vie.
Et vous, est-ce que vous estimez que ces militants écolos ont raison de durcir, de radicaliser leurs actions face à ce qu'ils qualifient d'inaction climatique de la part des chefs d'État, des gouvernements? On va poser la question à Frédéric qui a composé le 32-16 ce matin. On est dans la Vienne, c'est ça, avec vous Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Bah, ouais, oui, pour l'instant là, je suis dans la Vienne, mais je dois monter, je suis routier, donc je dois partir plus loin.
Ok, bah, vous partez où?
Je vais à Bretenouille, à côté de Compiègne.
Ok, ah oui, ça fait un peu de route là quand même.
Ah bah je suis routier, donc il faut bien
me prendre. Oui, c'est vrai, c'est le principe, vous avez raison, c'est le métier, et on vous accompagne, hein, je suis sûr, sur la route tous les jours avec RMC. Frédéric, ce matin, ce qui vous a fait réagir, c'est cette question qu'on vous pose. Est-ce que les écolos ont raison là de muscler leurs actions, de faire ce qu'ils appellent de la désobéissance civile? Vous avez forcément vu toutes ces images, Frédéric, hein, des tableaux sur lesquels on jette de la soupe, des routes bloquées, on a vu aussi des matchs de rugby ou de foot ou de tennis perturbés. Est-ce qu'ils ont raison de faire le buzz, Frédéric?
Bah, moi, je suis pas contre certaines actions, mais moi, en fait, je considère qu'ils deviennent comme des syndicats, quoi. Et j'en fais pas partie de syndicats, mais c'est qu'en fait, ils embêtent toujours les Français, toujours la même chose, embêter les Français, mais ils embêtent pas les politiciens, quoi.
Oui.
Donc, ça fait exactement comme les syndicats, c'est toujours nous qui devons subir, et on peut rien dire, et puis on doit dire amen, merci.
Oui, c'est vrai que quand ils vont bloquer l'autoroute, on a envie de leur dire, allez plutôt bloquer la voiture des ministres, quoi.
Bah, moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire. En parlant avec vous, là.
Ouais.
C'est ce que j'ai envie de leur dire. Embêter ceux qui peuvent faire quelque chose. Bah, après, moi, on peut pas dire que je suis pas écolo parce que, moi, on peut pas me comparer parce que moi, je pars toute la semaine. Donc, chez moi, il n'y a pas d'électricité d'allumer, à part le frigo, tout est éteint. Donc, toute la semaine, je consomme pas. Mais il y a des personnes qui, eux, toute la semaine, eh ben, ils rentrent chez eux et tout ça. Donc, forcément, ils ont besoin de consommer.
Oui, mais Frédéric,
on peut pas embêter les gens qui peuvent pas y faire grand chose, quoi.
Ouais, après, sur le fond, ils ont raison, ces militants. Vous voyez ce que je veux dire, d'alerter? Ou est-ce que vous dites, bah non, c'est pas leur boulot. Laissons les chefs d'État décider entre eux. Ils prendront les bonnes décisions, notamment lors de ces COP, etc. C'est pas aux militants de d'alerter comme ça de manière radicale.
Ah non, moi, j'ai rien contre les gens qui alertent. Mais c'est des gens qui doivent normalement connaître le sujet, qui alertent. Mais il y a une façon d'alerter. Là, ce qu'ils vont faire, en bloquant les autoroutes, en bloquant les gens, en les empêchant de faire leur vie normale, ils vont les braquer contre eux.
Ouais, mais alors, Frédéric, j'ai envie de vous dire aussi, ils réussissent leur coup, parce que s'ils faisaient une petite manif à 3000 personnes hier dans les rues de Paris, on en dirait à peine un mot ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à chaque fois qu'il suffit d'être 3 ou 4 à bloquer un match de foot ou à bloquer une route, et hop, ça fait la une des JT le soir, des chaînes info, etc.
Bah, t'as raison, ça a été le cas pendant des années.
Pendant des années, ils ont fait des manifs à Paris tous les week-ends. La République, il y avait des milliers de manifestants écolos. On en disait un mot de temps en temps, mais vous voyez ce que je veux dire, Frédéric? On n'en débattait pas. Eux, ils disent, c'est beaucoup plus efficace pour faire prendre conscience à tout le monde de faire une action choc.
Moi, je trouve que c'est pas plus efficace parce qu'en fait, leur action va en braquer des gens. Donc, en fait, s'ils font des actions qui braquent pas les gens, au contraire, qu'ils accompagnent les gens. Leur explique. Par exemple, moi, j'aimerais bien qu'il y a certaines actions que je fais et qu'on m'explique, par exemple, qu'il faudrait peut-être faire autrement.
Oui.
Parce que leurs actions s'enchaîner à des trucs ou bloquer des routes, à quoi ça va m'apprendre, moi, à pouvoir apprendre à faire des gestes que moi, je connaissais pas et qui va être écolo.
Oui, c'est ça. Il faut pas se contenter de culpabiliser en permanence les Français, de leur dire c'est mal. Il faut leur offrir des alternatives viables. Et puis, économiquement, je pense aussi viable, parce que c'est facile de donner des leçons à tout le monde quand on en a les moyens. C'est parfois plus compliqué d'être écolo, notamment pour les plus modestes. Vous savez quoi, cette question des écolos radicaux, est-ce que la fin justifie les moyens? Ce sont des questions qu'on va aussi poser à François Gémen, co-auteur du dernier rapport du GIEC, auteur de L'écologie n'est pas un consensus, un bouquin qui sort chez Fayard, et surtout François Gémen qui sera aussi ce matin l'invité d'Apolline. Il sera en direct à 7h40 dans Apolline Matin. Donc cette radicalité des écolos, les méthodes d'action des écolos radicaux, on va continuer à en débattre avec vous ce matin à l'occasion de cette COP27. Vous n'hésitez pas, comme Frédéric, qu'on remercie, on va lui souhaiter bonne route jusqu'à Compiègne avec RMC, on va l'accompagner. Et comme Frédéric, vous composez le 32-16 pour venir témoigner et débattre. À 5h48, vous avez deux rendez-vous sur RMC. Vous qui êtes fidèles, vous connaissez les deux hommes qui vont vous rejoindre tout de suite. Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'on va continuer à parler climat avec toi.
Absolument, on va faire rimer écologie et technologie avec des innovations très prometteuses pour lutter contre le réchauffement climatique.
Tiens, justement, Frédéric nous disait, c'est bien beau d'alerter, il faut des solutions concrètes. Quelques pistes pour le futur avec Anthony dans un instant. Et puis avec Arthur Asquin. Bonjour Arthur.
Bonjour Charles.
J'imagine que tu vas nous faire sourire avec ton histoire.
Je vais essayer, en tout cas, je vais vous parler d'un handicap. En tout cas, c'est lui, il le considère comme ça, un Britannique qui a un handicap plutôt étonnant.
Je sais pas si on va en sourire.
On va rigoler avec lui en direct.
Ouais, bon, ok, j'attends de voir. On va le dire comme ça dans un instant sur RMC. À 5h51 sur RMC, si vous venez de vous réveiller, voici les trois infos à retenir ce matin avec Anaïs.
Les ménages modestes se chauffant au fioul vont toucher une aide comprise entre 100 et 200 euros à partir d'aujourd'hui. Une aide versée automatiquement ou à demander en ligne si vous n'avez jamais utilisé un chèque énergie. 1 400 000 foyers sont éligibles. Une information RMC Sport à présent, à 2 semaines du mondial de foot au Qatar. Olivier Giroud fera partie de la liste annoncée par Didier Deschamps mercredi soir. Et puis l'OM s'est imposé face à l'OL. Hier, en clôture de la 14e journée de Ligue 1, victoire 1-0.
Et puis Géraldine Demory, un coup d'œil au ciel du jour.
Grand classique, soleil au sud de la Loire, alors qu'au nord de la Loire, ça va être bien nuageux avec un peu de pluie, beaucoup de vent et des températures quand même qui restent assez douces. 15 à Lille cet après-midi, 16 à Paris, 20 à Bordeaux, 21 à Marseille, 23 pour Ajaccio.
Et puis je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes pour vous inscrire, pour jouer au coffret RMC, le coffret de retour. Il y a plein de cadeaux à gagner, quoi qu'il arrive, vous gagnez. Alors parmi les cadeaux, je vous fais la liste, il y a un iPad, il y a une enceinte Marshall, il y a des AirPods, et puis le gros cadeau, c'est le pack Total Coupe du Monde à RMC, avec à l'intérieur une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox, plein d'autres cadeaux, bref. Plein de beaux cadeaux dans le coffre RMC. Il faut envoyer le mot coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216. Le gagnant avec nous dans quelques minutes. Tout de suite, on part dans le futur.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
La COP27, on en parle ce matin, débute en Égypte. Et tu nous dis que la technologie a un rôle très puissant à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique avec des innovations prometteuses.
Ouais, allez, trois exemples très concrets. Le premier, c'est le potentiel énorme du stockage de CO2. Pour faire simple, on va aspirer le trop-plein de CO2 contenu dans l'atmosphère, responsable du réchauffement climatique, le piéger et aller l'enfermer profondément sous terre pour qu'il ne puisse plus en ressortir. Voilà, il y a des dizaines de projets à travers le monde. Les plus ambitieux s'appellent le projet Orca en Islande, le projet Bison dans l'état du Wyoming aux États-Unis. Et donc, ce qu'ils ont mis au point, c'est ce qu'on pourrait appeler des aspirateurs à CO2. Ça ressemble à de gros climatisateurs ou ventilateurs qui vont aspirer l'air, filtrer le CO2. Oui, tu fais très bien le bruitage, Charles, effectivement, avec des cartouches absorbantes. Et une fois soit piégé, eh bien ce CO2, on va le transformer sous forme liquide et l'envoyer pour le stocker dans des puits souterrains, dans des masses rocheuses où il est inoffensif. Et là, on va l'empêcher de remonter. Alors, c'est pas une solution miracle non plus, parce que ça va mettre du temps à se mettre en place, et du temps, on en manque quand même niveau climatique. Ça, c'est la première chose. Et puis certains craignent que cette technologie ne soit une sorte de chèque en blanc à polluer. C'est-à-dire, si on peut éliminer le CO2 de l'atmosphère, bah on va pas s'empêcher d'en émettre. Oui. Évidemment, c'est pas l'idée. Hein.
Bah, le mieux, ça serait quand même d'en émettre moins.
Bien sûr, notamment dans les transports. Là, on parle beaucoup des voitures, on parle beaucoup des avions, mais il y a aussi les bateaux, les porte-conteneurs. On a tous vu les images de ces immenses bateaux qui transportent 90% des marchandises à travers le monde. Bah, imaginez les mêmes bateaux, mais avec des voiles. Alors, c'est une rétro-innovation, mais il y a plein de startups qui travaillent là-dessus, sur des porte-conteneurs qui sont des sortes de gréements, finalement, notamment Neoline, c'est une entreprise française. Ils travaillent sur un bateau qui est grand comme un stade de foot, qui peut embarquer 500 voitures, mais vous avez d'immenses voiles à la place des moteurs. Alors, il y a quand même des moteurs, mais on va utiliser 90% de carburant en moins. Ça, c'est une solution hyper intéressante.
Faudrait être
même si
un peu moins pressé quand alors, on commande sur Amazon.
Absolument, tu as raison. C'est pour des produits qui mettent un petit peu plus de temps à arriver.
Votre paire de chaussures arrivera entre septembre et décembre.
Non, mais ça n'est pas tant que ça. C'est pas si lent que ça par rapport à des bateaux classiques.
Et puis, une dernière innovation très sérieuse, même si elle peut prêter à sourire, la technologie peut nous aider à rendre les vaches moins polluantes.
Bah oui, parce que les
paix de vaches.
Ouais, alors et tu sais que c'est pas les paix, ce ne sont pas les paix, ce sont les rots des vaches qui polluent énormément. Et oui, contrairement aux idées reçues à cause du méthane, hein, gaz à effet de serre évidemment. Et là encore, il y a des solutions assez étonnantes qui arrivent. D'abord, une start-up suisse, Moutral, qui a mis au point un complément alimentaire à base d'ail et d'extrait de citron qui aurait la propriété de réduire de 30% les émissions de méthane du bétail. Et l'autre option un peu plus radicale qui vient du Royaume-Uni, ce sont des masques pour vaches capables de filtrer et de piéger le méthane dès qu'il sort de leur bouche. Bon, sur les tests réalisés, ça permet de réduire 50% des émissions, ce qui est pas mal.
Pourquoi pas ?
Rien qu'en France, les vaches émettent autant de CO2 que 15 millions de voitures. C'est énorme.
C'est fou. Ah oui, c'est fou. Et je te remercie, Anthony, d'avoir fait les bruitages sur l'aspirateur.
Mais pas CO2,
mais pas
sur
les vaches.
Voilà. Ouais,
j'ai hésité.
Le bruitage à bon escient d'Anthony Morel et ses innovations technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est à retrouver aussi en podcast sur l'appli RMC. Il est 5h55. On va se détendre. On va sourire avec l'histoire d'Arthur.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Arthur, tu as choisi ce matin de nous parler de notre héros, on peut le dire comme ça, parce qu'on en a parlé hors antenne et on est très admiratif de ce Britannique qui se considère comme victime d'un handicap assez surprenant.
Oui, il s'appelle Joe et il a témoigné dans une série documentaire de Channel 4 intitulée « My Massive Cock ». En français, ça donnerait quelque chose comme « Mon énorme... » Vous l'aurez compris, il s'agit d'une émission consacrée à des hommes dotés d'un sexe très imposant, mais qui le vivent mal au quotidien.
J'ai été particulièrement touché de voir enfin mon problème exposé.
C'est très fin, ça se mange sans fin. Et Joe le vit très mal, lui, hein, ce qu'il appelle son handicap. Sortir de chez lui, c'est une véritable épreuve, hein, parce que dans la rue, il est sans cesse victime de moqueries et même de menaces. La plupart des gens pensent en fait qu'il se balade avec une érection.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Alors, je suis obligé de donner quelques chiffres quand même. Enfin, un chiffre. Joe a un engin qui mesure 24 cm au repos. Ce qui l'oblige à commander des caleçons très spéciaux, assez chers, qui permettent...
Il fait des gros yeux.
C'est un admiratif.
Envieux.
Je te raconterai ce que ça fait.
Bon, bref, Joe, il commande des caleçons high-tech qui permettent plus ou moins, ça marche pas très bien apparemment, d'atténuer les contours de son entrejambe.
Ça lui pose aussi des soucis dans sa vie professionnelle.
Et oui, récemment, Joe a passé un entretien d'embauche et ses interlocuteurs lui ont dit qu'il avait l'air d'un bon candidat, mais que son comportement les avait mis très mal à l'aise. Vos vêtements sont inappropriés, ont-ils dit. Clairement, ils le soupçonnaient d'avoir eu une érection pendant toute la durée de l'entretien.
Vous allez être très 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 motivé.
Recalé, no job in job.
Ça peut être un handicap aussi, donc c'était important de le...
J'en sens le mettre en lumière.
Voilà, je sentais qu'Arthur avait très envie de partager le combat de Joe ce matin.
On l'embrasse.
Sur RMC, oui.
Joe.
On le salue en tout cas.
Ça devient n'importe quoi là.
Allez, à 5h57, bientôt les infos, mais la petite info bonus tous les matins avec Anaïs. Anaïs, tu voulais toi aussi nous signaler une info importante à tes yeux. David Guetta va sortir un nouvel album en 2023.
Oui, le DJ Star l'a annoncé à la télévision espagnole. Il va travailler avec les plus grands artistes, dit-il. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un très beau carnet d'adresses puisqu'il a déjà collaboré avec Sia à maintes reprises. Mais aussi avec Usher ou encore Shakira et les Black Eyed Peas. Et ça cartonne à chaque fois. David Guetta d'ailleurs cartonne en ce moment avec ça. Je suis sûr que ça te rappelle des souvenirs, Charles.
C'est Blue Dadadi Dadoudala.
Exactement, FL65, ça lui vaut 300 millions de vues sur Spotify. Et ça lui a donné donc envie de sortir un nouvel album, le dernier montant en 2018. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 55 ans.
Bon anniversaire. Ah bah bon anniversaire, David, et vivement le nouvel album.
Vivement.
5h58, Géraldine Demory. Bon bah oui, le classico de la météo, hein, des nuages pour le nord et du soleil pour le sud.
Ouais, cette France vraiment coupée en deux. Donc si vous êtes au nord de la Loire, ça va être bien gris avec des petites pluies faibles, avec pas mal de vent, le vent notamment qui va se renforcer ce soir sur la pointe bretonne avec des rafales à 100 km par heure. Au sud de la Loire, alors on a quelques grisailles dans les plaines du sud-ouest ce matin. Globalement, ce sera assez rapidement du soleil avec un ciel un petit peu plus voilé, toujours sur le sud-ouest. Les températures, alors globalement, c'est assez doux. Les températures qui vont même repartir à la hausse cet après-midi. 15 à 18 degrés pour la moitié nord, 17 à 21 sur la moitié sud, on ira même jusqu'à 23 en Corse. Temps bien agité demain avec de la pluie et du vent sur la plupart des régions. Mercredi, temps frais avec des pluies soutenues surtout dans l'est. Et puis à partir de jeudi, ce sera un temps calme avec du soleil partout.
Lundi 7 novembre,
l'info sur RMC.
Il est précisément 6h, bon réveil sur RMC, bon courage si vous êtes déjà au boulot, déjà sur la route, c'est l'heure de l'info. Le journal présenté par Marguerite Dumont, bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Du sabotage, les organisateurs d'une course de moto accusent des militants écologistes d'avoir trafiqué le parcours qui traversait une zone protégée dans le Limousin. Des pilotes perdus se sont retrouvés en hypothermie. Un chèque fuel versé dès aujourd'hui aux ménages modestes pour remplir leur cuve cet hiver, 100 à 200 euros. Et puis Marseille renoue avec la victoire. L'OM a battu l'OL 1-0 hier au Vélodrome.
Les organisateurs d'une course de motocross accusent des militants écolos de sabotage.
La compétition se déroulait hier sur le plateau de Mille Vaches, c'est dans le Limousin, et surtout c'est une zone protégée. Les participants ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'une partie du parcours avait été trafiquée. Les pilotes se sont perdus, la course interrompue, Alfred Orange.
Des pilotes qui partent à gauche au lieu d'aller à droite, d'autres qui tournent en rond pendant des heures. C'est la meilleure expérience vécue par des dizaines de motards venus participer à une course d'enduro sur le plateau de Mille Vaches, d'un parcours trafiqué sur une partie du tracé avec des indications inversées voire même supprimées. Certains pilotes dépourvus de réseau et plongés dans la nuit ont été retrouvés en état d'hypothermie à plus de 40 km du circuit. La course a dû être interrompue. L'organisation dénonce un sabotage. Plus tôt dans l'après-midi, des militants écologistes avaient déjà bloqué une partie du parcours, protestant contre le passage de cette course dans des zones classées Natura 2000, mais ni toute implication. De son côté, l'organisation annonce vouloir porter plainte.
Et au-delà de l'exemple de cette course de motocross, vous avez forcément vu toutes ces actions de plus en plus radicales des militants écolos, les routes bloquées, les événements sportifs perturbés. Est-ce qu'ils ont raison, ces militants, de radicaliser leurs actions pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'inaction climatique? Vous prenez la parole ce matin, c'est le débat qu'on va avoir avec vous au 32-16.
Et la question se pose alors que la COP27 a débuté à Sharm el-Sheikh en Égypte hier. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement attendus dès aujourd'hui. Coup d'envoi donc avec ce constat de l'Organisation météorologique mondiale. Les 8 dernières années, 2022 compris, sont les 8 années les plus chaudes de notre histoire. Se chauffer sans se ruiner, c'est l'autre question qui se pose en ce moment, et ça se pose en France. Le gouvernement distribue ce matin un chèque entre 100 et 200 euros à ceux qui se chauffent au fioul. Ça concerne quand même 1 400 000 foyers, les foyers les plus modestes, nous explique Siam Spencer pour RMC.
Anne est propriétaire d'une maison à Quimper, elle est éligible à cette aide.
J'ai fait un plein de 500 litres de fioul et j'en ai eu pour 765 euros pour 1000 litres. L'année dernière, j'en avais pour le même prix.
Elle devrait percevoir autour de 100 euros, une somme dérisoire face à sa facture qui a doublé en un an.
Ces 500 litres que je viens de mettre là, je vais devoir le faire deux voire trois fois dans l'année. Donc 100 à 200 euros sur ces sommes-là, c'est très peu en fait.
Une augmentation de plus à encaisser pour cette mère de famille.
Je vis seule avec mes trois enfants. Il y a énormément de choses qui augmentent à côté, donc ça devient compliqué, ouais.
Une aide demandée depuis des semaines par les associations de consommateurs. Jamie Belkiri, présidente du pôle consommation de l'association Famille de France.
Ça fait toujours du bien aux personnes les plus fragiles. Hein.
Selon elle, il faudrait élargir l'aide à des foyers moins modestes qui subissent tout de même ces augmentations de plein fouet.
Mais il faudrait que ces familles-là, qu'on oublie souvent malheureusement, qu'elles soient aussi aidées. Peut-être pas à la même hauteur que les plus fragiles, mais que le gouvernement fasse un geste vers ces familles-là.
Une aide qui vient en complément des deux chèques énergie attribués cette année pour faire face à la hausse de 15% des prix du gaz et l'électricité prévue en 2023.
Et si vous souhaitez en bénéficier, il faut s'inscrire à partir d'aujourd'hui sur le site chequenergie.gouv.fr. Autre conséquence de la crise de l'énergie, la hausse des prix des billets de train. Le gouvernement demande un bouclier tarifaire à la SNCF. Kevin Gasser, l'entreprise, voit sa facture d'électricité exploser en ce moment.
Oui, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, estime le surcoût de la consommation électrique de l'entreprise publique en 2023 entre 1,6 et 1,7 milliard d'euros. Si le géant ferroviaire répercutait cette hausse, l'augmentation des prix des billets serait alors de 10%, d'où ce bouclier tarifaire souhaité par le ministre Clément Beaune pour ceux qui ont besoin du train au quotidien. Les plus modestes, les jeunes, a énuméré le ministre des Transports. Mais ce bouclier tarifaire ne concernerait pas les lignes régionales, rappelle Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport.
Ce sont les régions qui sont les patronnes et qui définissent les tarifs. Et elles ont déjà annoncé la couleur. Aussi, pour faire face aux dérives du coût de l'énergie, elles allaient aussi augmenter les tarifs à compter du début 2023.
Et ce sont ces lignes régionales qui sont les plus empruntées par 9 voyageurs sur 10, estime la fédération.
Et puis, on passe au foot. Mais oui,
évidemment,
à 6h04. Avec l'OM, Marseille qui a retrouvé la victoire hier soir.
L'OM a remporté l'Olympico contre l'OL hier soir au Vélodrome. Les Marseillais se sont imposés sur le plus petit des scores, 1-0. Mais ce succès permet de remonter le moral des troupes, Florent Germain.
Oui, c'est beaucoup plus qu'une victoire pour l'OM. Marseille n'était pas loin de la crise et devait tourner la page après la claque contre Tottenham et l'élimination européenne. Ce succès contre le rival lyonnais relance les Phocéens. Valentin Rongier, capitaine soulagé.
On savait très bien que l'importance de ce match. On a répondu présent, on a montré de la personnalité. Je pense que ça fait du bien à tout le monde dans les têtes, que ce soit nous les joueurs, le staff, mais aussi aux supporters qui méritent cette victoire.
Il y avait même de la rage dans la célébration de Samuel Gigot accroché au filet du virage sud après son but. Le défenseur de l'OM, un enfant de la région, avait rêvé de ce moment.
Ah, j'ai failli tout arracher, mais non, c'était trop beau. C'est vrai que nos supporters, ils sont exceptionnels depuis le début. Et c'est vrai que c'était difficile pour nous après cette contre-performance mardi en Coupe d'Europe. Le meilleur des remèdes, comme j'ai dit, c'était de gagner ce soir et de pouvoir gagner à la maison face à Lyon. C'est une belle victoire.
Marseille est désormais quatrième de Ligue 1 à égalité avec Monaco. Monaco-OM, ce sera justement le choc de dimanche prochain au Stade Louis II.
Et côté OL, l'entraîneur n'a pas mâché ses mots. Lyon a été trop médiocre, a reconnu Laurent Blanc. La 14e journée de Ligue 1, également marquée par la victoire de Paris 2-1 à Lorient. Le tirage au sort 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu, lui, à midi. Et pour terminer cette information, RMC Sport, Olivier Giroud participera au Mondial au Qatar. C'est dans 2 semaines et Didier Deschamps doit le confirmer après-demain quand il présentera la liste des Bleus sélectionnés.
Et Marguerite Dumont participera au journal de 7h tout à l'heure.
Avec plaisir.
Titulaire, évidemment.
Toujours.
Tout à l'heure sur RMC pour un prochain journal à 7h. Merci beaucoup Marguerite. Il est 6h06. C'est l'heure du coffre.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC ?
Le coffre RMC.
Eh oui, c'est le retour, vous le connaissez désormais, le coffre RMC pour gagner de très beaux cadeaux. Et là, attention, c'est le coffre de la Coupe du Monde que vous allez peut-être pouvoir ouvrir. Je vois que Florian a été tiré au sort ce matin. Salut Florian.
Oui, salut, ça va?
Bah, ça va, et vous Florian? Levé tôt pour le boulot là?
Ouais, impeccable, bah j'y suis là, je me rends, je viens de passer le portillon pour...
Parfait. Et bah, juste avant de commencer la journée, vous avez gagné, quoi qu'il arrive, sur RMC. Alors attention Florian, il y a une première étape. Il y a l'enveloppe. Je vais ouvrir l'enveloppe dans laquelle vous avez gagné soit un iPad, soit une enceinte Marshall. Et pour vous, Florian, j'ouvre l'enveloppe en direct. Et c'est une enceinte Marshall. Voilà, elle est gagnée. Elle est pour vous, Florian, l'enceinte Marshall. Très beau cadeau. Sauf que, Florian, vous pouvez la remettre en jeu, cette enceinte. Vous pouvez choisir de nous dire « Je remets mon cadeau en jeu » pour pouvoir ouvrir le coffre RMC. Et dans le coffre, je vous l'annonce, Florian, il y aura soit une paire de AirPods, soit le gros cadeau, la totale Coupe du Monde avec la télé 70 pouces, la barre de son, la Xbox, etc. Bref, voilà, les AirPods ou l'énorme cadeau totale Coupe du Monde RMC. Florian, est-ce que vous remettez votre cadeau en jeu pour ouvrir le coffre?
Bon allez, je remets tout en jeu, je suis joueur.
Allez, et ben c'est parti. Alors j'ouvre le coffre, je fais la combinaison en même temps que je vous parle, Florian. Hop, tac, tac, attends, hop, j'ouvre. Et à l'intérieur, je découvre, alors je dois ouvrir la boîte. Ce sont des AirPods, Florian. Une paire d'AirPods qu'on va vous envoyer tout de suite du côté de Saint-Nazaire, Florian.
Oui, voilà, c'est bien ça, ouais. C'est bien ça.
Bravo. Belle façon de commencer la journée.
Ouais.
Vous allez... Ouais, très bien, ouais, pour un lundi.
Vous allez pouvoir frimer auprès des collègues, là, vous allez
retrouver. Et écouter la Coupe du Monde avec vos AirPods.
Mais oui, vous pourrez écouter évidemment RMC avec vos AirPods. Et Florian, on vous les envoie, on vous souhaite bon courage pour la journée de boulot.
Ok, bah de même, hein. Profitez bien de votre journée.
Exactement, bah, on profite parce qu'on est avec vous tous les matins au 32-16 et en plus on vous fait gagner le coffre RMC. Il revient dans quelques minutes dans Apolline Matin avec Apolline dès 6h30.
Le coffre RMC.
Pour jouer, envoyez dès maintenant coffre par SMS au 732-16. Coffre au 732-16.
Il est 6h09 sur RMC. La suite du programme, ce sont deux rendez-vous dans quelques minutes. Il y aura votre story sport et puis on va parler économie avec Emmanuel Le Chypre. Mais tout de suite...
Un homme qui a révolutionné notre quotidien, qui vient de s'installer dans notre studio, l'inventeur du Nutri-Score, le nutritionniste Serge Herberg. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Serge Herberg. Les Français ont clairement adopté désormais le réflexe Nutri-Score, dont les critères vont évoluer l'année prochaine. Vous allez tout nous expliquer dans une minute sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h10, bon réveil à tous sur RMC.
L'invité de Charles Matin.
Rebonjour Serge Herberg, vous êtes nutritionniste et j'ai d'abord envie de vous dire bravo parce que vous êtes l'inventeur, le père du Nutri-Score qui a été lancé en 2017. 5 ans plus tard, c'est un succès. Si on en croit les sondages, 6 Français sur 10 déclarent avoir modifié leur alimentation en fonction de ce Nutri-Score. C'est une belle victoire, non ?
Oui, c'est une belle victoire, en plus que 90% même des consommateurs demandent qu'il devienne obligatoire. Donc ça devient vraiment la réponse à un besoin.
Et puis d'autant qu'on constate aussi que les consommateurs ont adopté ce réflexe, ils regardent le Nutri-Score quand ils achètent. Les industriels aussi ont dû s'adapter à ce Nutri-Score.
Oui, tout à fait. Et au départ, lorsqu'il a été proposé, il n'y avait aucun industriel qui ne soutenait Nutri-Score. Au contraire, il le combattait. Aujourd'hui, il y a plus de 800 marques qui l'affichent, même s'il reste encore des grands groupes qui refusent de l'adopter.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quels critères on fixe le score, les lettres A, B, C, D, E des produits ?
Alors, en fait, c'est issu de la science, mais c'est du bon sens. On reprend les données qui sont sur l'étiquette à l'arrière des emballages des aliments dans un tableau incompréhensible. Les graisses saturées, le sucre, les calories.
Oui, parce que toutes ces infos, elles étaient déjà à l'arrière, sur l'étiquette, sur le produit. Mais en tant que consommateur, personne prenait le temps de lire et personne, enfin, moi, j'avais pas en tout cas les capacités de comprendre toutes ces virgules, tous ces produits, tous ces termes chimiques. Là, le Nutri-Score, ça a le mérite d'être très clair, en fait, à l'avant du produit.
Tout à fait, c'est incompréhensible. D'ailleurs, les industriels souhaitaient que ça soit incompréhensible pour pas donner une transparence sur la réalité de la composition nutritionnelle. En fait, Nutri-Score n'invente rien. Il traduit ces données incompréhensibles sous forme d'un logo synthétique simple et compréhensible par tous.
Et alors, donc, ce sont les lettres A, B, C, D, E. Vous êtes nutritionniste, je ne sais pas, à vos patients, qui vous leur dites, attention, dès que c'est au-delà de B, il ne faut pas consommer, ou c'est juste une valeur informative ? Non, mais c'est une vraie question de...
Non, vous avez raison, c'est une vraie question, et je vous rassure, ce que l'on dit à l'ensemble de la population, c'est qu'il vaut mieux privilégier, si c'est possible, des produits qui sont classés A et B, mais si les produits sont classés D et E, on peut tout à fait les consommer, simplement ça alerte qu'ils doivent être consommés plutôt en quantité raisonnable, pas trop fréquemment et pas trop souvent.
On pourra pas dire qu'on savait pas, quoi. En tout cas, quand on a le Nutri-Score D ou E sur le produit. Et vous nous parliez des critères. C'est quoi? C'est le sucre, le sel contenu, les matières grasses?
Alors, d'un côté, c'est ce qu'il faut réduire. Donc, le sucre, les graisses saturées, le sel, les calories. D'un autre côté, c'est les points positifs qu'on prend aussi en considération. Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes? Donc, des choses plutôt à favoriser. L'ensemble de ces données, grâce à un algorithme très scientifique, permet d'aboutir à une note et ensuite à une couleur.
Et donc justement, le barème de notation va évoluer à partir de l'année prochaine, c'est ça ?
Oui, bien sûr, parce qu'il était prévu dès le départ que Nutri-Score évolue en fonction des progrès de la science et puis de l'évolution des nouveaux produits et l'expérience qu'on a acquise maintenant depuis 5 ans.
Oui, mais alors, vous travaillez déjà, j'imagine, sur les nouveaux critères. Est-ce qu'il y a des produits qui vont bouger, qui vont changer ? Je ne sais pas, des produits qui aujourd'hui étaient A ou B et qui vont passer C, D, voire E. Et à l'inverse, peut-être des produits qui avaient une mauvaise note et qui vont remonter dans le classement ?
Oui, absolument. Il y a eu un comité scientifique international qui a bien travaillé. Qu'est-ce que l'on va voir ? Eh bien, d'un côté, les produits qui sont sucrés ou salés vont être encore plus pénalisés. Par exemple, des céréales petit déjeuner qui contiennent du sucre qui étaient plutôt bien classés jusqu'à présent.
Oui, parce que moi, j'ai l'impression pour mes enfants que j'achète des céréales. J'en regarde le Nutri-Score, mais on en trouve des céréales de grandes marques, etc., que moi, je pensais pas terrible pour la santé, mais qui ont du B ou du C. Elles sont pas toutes E, quoi, les céréales aujourd'hui.
Absolument, parce que les industriels ont tout de même diminué les teneurs en sucre, mais sont arrivés à un niveau qu'il donne l'impression que les produits seraient favorables à la santé. Ouais. Donc, on a un peu corrigé cela.
Donc, les notes vont se durcir pour les céréales.
Pour les céréales petit déjeuner sucrées, elles vont se durcir. Celles qui ne contiennent pas de sucre resteront bien classées. Celles qui en contiennent seront moins bien. Puis, bien évidemment, D'autres produits vont être plus pénalisés. Certains produits préparés, composés, certaines pizzas, par exemple, passeront plutôt de B à C ou de C à D.
Et la viande rouge. On trouve des pizzas B encore aujourd'hui avec
le score actuel. Oui, on en trouve parce qu'il y a un peu moins de grains, un peu moins de sel. Alors, ce qui est important, c'est d'éviter qu'elles soient trop bien classées, mais qu'on puisse discriminer entre celles qui sont les moins pires, si je peux dire.
C'est pas pareil une pizza C, une pizza E, quoi. C'est
absolument. Bien expliqué. Si on veut manger une pizza, autant prendre une C.
Et alors, est-ce qu'il y aura du mieux? Par exemple, je pense au fromage et notamment au Roquefort.
Alors, il y aura du mieux pour les fromages qui sont les moins salés, les moins gras. Par exemple, l'emmental passera de D à C. Par contre, le Roquefort et un certain nombre de fromages qui sont gras et salés resteront E, mais ça ne veut une fois plus ne pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais simplement être raisonnable et pas en manger trop souvent.
Et j'ai lu que la viande, en général aussi, allait voir son Nutri-Score baisser, que la viande serait plus mal notée dans le prochain Nutri-Score.
Alors, c'est le cas de la viande rouge, de boucherie hors volaille, parce qu'on sait aujourd'hui que la consommation en quantité importante de viande rouge favorise un certain nombre de maladies, notamment des cancers.
Donc ça, ce sera le nouveau barème du Nutri-Score à partir de l'année prochaine. Et vous nous disiez au tout début de cette interview, on voit que ça marche, il faudrait maintenant le rendre obligatoire, parce que jusqu'à présent, c'est au bon vouloir de l'industriel. C'est-à-dire que je suis un industriel, je produis des pizzas ou des céréales, j'ai le choix d'afficher ou pas le Nutri-Score, c'est ça ?
Oui, c'est la situation actuelle à cause d'une réglementation européenne qui empêche les États de rendre obligatoire un logo. Donc, il faut le rendre obligatoire puisque s'il y a 60% aujourd'hui des produits alimentaires qui ont le Nutri-Score, il y en a encore 40% qui ne l'ont pas parce que des grands groupes agroalimentaires refusent de l'afficher. C'est le cas de Lactalis, Ferrero, Coca-Cola, Mars ou Mondelez.
Oui, parce que clairement, c'est ceux qui auraient les plus mauvaises notes qui refusent de l'afficher. C'est plutôt les élèves vertueux qui affichent le Nutri-Score aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, oui, c'est le cas, mais il est indispensable que pour tous les aliments, il y ait une véritable transparence sur la composition nutritionnelle.
Et alors, Serge Herberg, vous avez inventé ce Nutri-Score, c'est un succès, on l'a dit, en France, et vous nous dites, pour avancer, il faudrait peut-être des décisions européennes. Est-ce que nos voisins commencent à adopter des systèmes de Nutri-Score? Est-ce que, pour une fois, la France montre l'exemple?
Oui, il y a aujourd'hui 7 pays en Europe qui ont adopté le Nutri-Score, hein, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, la Suisse et le Luxembourg, à côté de la France. Mais il y a encore certains États, notamment l'Italie, qui refusent le Nutri-Score au nom de la défense des intérêts économiques.
Du jambon. J'imagine qu'il y a des intérêts gastronomiques.
Le jambon, le salami, le gorgonzola, et puis il y a Ferrero aussi qui est très puissant en Italie.
D'accord, donc c'est aussi une lutte contre certains lobbies de l'industrie agroalimentaire, mais si je comprends bien maintenant, ce que vous espérez, c'est une généralisation et qu'on trouve un moyen de rendre obligatoire ce Nutri-Score sur tous les produits. Et puis moi, ce que je retiens, c'est que oui, on peut s'autoriser de temps en temps un produit classé C ou D, mais on le fait en connaissance même de cause. Même eux. Ça vous arrive, vous, en tant que nutritionniste, Serge Herberg, de vous autoriser un produit
La nutrition, ça n'est pas l'interdiction, et simplement, il faut être raisonnable sur certains de ces produits.
Bon, et on vous félicite encore pour ce Nutri-Score. Je pense qu'on l'a tous adopté autour de ce plateau.
Surtout quand on a des enfants, on est beaucoup plus vigilants.
Exactement. Quand on achète des biscuits, etc., pour les enfants, c'est très pratique d'avoir cette information simple, parce que oui, vous l'avez très bien dit, elle existait déjà, cette info, mais il fallait être chimiste, quoi, en lisant les étiquettes pour savoir vraiment ce qu'il y avait dans les produits. Grâce au Nutri-Score, on a une information simple et rapide, et c'est en grande partie grâce à vous, Serge Herberg, nutritionniste, et donc inventeur, je sais pas comment vous le dites, père du Nutri-Score, on peut le dire comme ça.
C'est une paternité multiple parce que c'est issu de la recherche et donc d'une équipe de recherche scientifique.
Et ben vous féliciterez tous les chercheurs qui ont travaillé avec vous à ce Nutri-Score et merci beaucoup d'être venu nous dévoiler un peu les tendances, j'ai envie de dire, du Nutri-Score 2023 qui va bientôt apparaître dans nos rayons. Merci beaucoup Serge Herberg d'être passé ce matin par le studio d'RMC. Il est 6h17. Tout de suite, deux hommes que vous attendez qui font leur retour après quelques jours de congé pour certains. Bonjour monsieur Le Chypre.
Bonjour à tous.
Le Chypre du jour, l'économie dans un instant, avec au menu...
Ah, je vais vous mettre des paillettes dans les yeux, des étoiles, je sais pas comment dire. Une loterie comme vous n'en avez jamais vu.
Ah, vous l'entendez, Emmanuel a passé de bonnes vacances, il est de retour en pleine forme. Et puis la story sport avec Thibaut Texer, au menu Thibaut.
Ouais, moi aussi je vous mets des étoiles dans les yeux. Giroud en bleu pour la Coupe du Monde, vous en rêviez, ce sera une réalité.
Ah, on va tout savoir de l'histoire d'Olivier Giroud, car oui, c'est une info RMC. Giroud sera bien dans la liste de Didier Deschamps mercredi. Il est 6h18, vous êtes sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est bientôt 6h30, place à l'économie.
Le Chypre du jour.
Avec Emmanuel Le Chypre, de retour en ce lundi matin, avec un chiffre impressionnant.
Un chiffre époustouflant, vous voulez dire. 1,9 milliard de dollars. Et oui, ce soir, un Américain gagnera peut-être cette somme record à la loterie Powerball. Alors, si le montant atteint de tels records, c'est du jamais vu, hein, dans l'histoire des loteries. Eh bien, c'est que le gros lot n'a pas été gagné depuis une quarantaine de tirages et que chaque fois, le montant est remis en jeu et augmenté. Le précédent tirage, c'était samedi, 1,6 milliard, toujours pas de vainqueur. Donc là, on passe à 1,9 milliard pour ce soir. Alors, ça fait quand même 10 fois les plus gros gains à l'euro million, hein. Donc, voilà, on n'est pas dans la cour.
Ils font tout en plus grand, les Américains.
Voilà, tout en plus grand. Alors, il faut dire que les chances de remporter la cagnotte sont minimes, puisque avec un ticket de loterie à 2 dollars, c'est une chance sur 292 millions, hein, puisqu'il faut 5 numéros plus le complémentaire. En gros, vous avez 300 fois plus de chances de mourir foudroyé que de gagner
ouais,
à cette loterie.
Oh, mais voilà. quand même, ça fait envie. Moi, je peux pas jouer, par exemple.
Ah, ben oui, évidemment. On se dit, ah ben, si nous, on pouvait jouer. Eh bien, la seule condition à remplir pour avoir un ticket valide, c'est d'acheter son billet sur le sol américain.
Ah,
vous pouvez être, non, mais vous pouvez être même touriste, hein, voilà. Et là, on peut se dire, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un billet?
Ah, bah oui.
Par exemple, hein, un petit aller-retour à New York, vous achetez votre billet, eh bien, vous pouvez gagner, effectivement. Alors, petit bémol quand même pour doucher l'enthousiasme de tout le monde, c'est qu'en cas de victoire, si vous êtes étranger, eh bien le fisc américain prélèvera 45% de la somme.
Ouais, mais ça va. Oui. Il en reste pas mal.
Il vous en reste.
Il reste un milliard.
Il vous en reste pas mal. Et en plus, vous avez le choix sur la façon de toucher ce gros lot. Oui, soit vous pouvez décider de toucher tout d'un coup, ou bien vous pouvez décider qu'on vous versera la somme sur une durée de 30 ans sous forme de rente.
Oui, voilà. Il me semble qu'on touche moins si on prend tout d'un coup.
Oui, effectivement. Ah ouais. Si on prend tout d'un coup, c'est 750 millions.
Ah oui, voilà, c'est un tiers de la somme,
dollars,
en gros.
Exactement.
Tout de suite, ou 2 milliards si on l'étale sur 30 ans. Ah, c'est un vrai débat. Je te laisse réfléchir.
Sortir en capital ou sortir en rente, vous voyez, c'est comme les retraites un peu.
Je prends tout.
Vaste débat. Anaïs prend tout. Il est 6h22, c'est l'heure de la Story Sport.
La Story Sport.
Avec Thibaut Texer, nous sommes à 2 jours de l'annonce de la liste des Bleus de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Et nous sommes en mesure d'annoncer, c'est une info RMC Sport, qu'Olivier Giroud sera bien du voyage.
Depuis le début de la saison, le Français enchaîne les bonnes performances avec son club. L'AC Milan, 4 passes décisives et 9 buts le dernier ce week-end. But stratosphérique, suffisant pour relancer la machine autour de sa potentielle sélection en bleu. Pour le Mondial, selon notre consultant Stéphane Guy, c'est désormais chose faite.
Je vais effectivement vous confirmer que c'est pas du conditionnel. Donc Olivier Giroud sera dans la liste de Deschamps mercredi soir.
Les passagers à destination du vol 111 sont priés de se présenter, porte B.
Et voilà, Olivier Giroud va donc s'envoler avec les Bleus pour le Qatar la semaine prochaine.
Moi, Giroud à la Coupe du Monde, une annonce qui peut surprendre quand même.
Mais oui, Giroud c'est le mal-aimé de l'équipe de France, il fait toujours ou presque débat, même chez les joueurs.
On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil.
Le tacle de Karim Benzema en 2020 contre le buteur tricolore, depuis l'attaquant du Real a retrouvé les Bleus en lieu et place de Giroud, appelé seulement à 2 reprises depuis l'Euro 2021 pour remplacer Karim Benzema.
Pourtant, le bilan de Giroud est plutôt bon, on va dire même très bon.
L'ancien joueur d'Arsenal a inscrit 49 buts sous le maillot tricolore à 2 longueurs du record détenu par Thierry Henry.
Quand t'es le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, si t'es pas un plus, tu seras jamais un plus, hein.
Mbappé, à propos de Giroud, en septembre dernier, le bilan est un peu moins reluisant en Coupe du Monde, puisque sur les 2 dernières éditions, il n'a marqué qu'un seul but, c'était en 2014. S'il est donc assuré d'être au Mondial, Giroud est aussi assuré, ou presque, de devoir jouer les seconds rôles.
Le premier des remplaçants, c'est Giroud. L'homme qui peut marquer sur une fin de match, l'homme qui peut rentrer et être toujours décisif ou au minimum tout donné pour l'équipe. Très honnêtement, il n'y a que des points positifs à la présence de Giroud dans le groupe France.
Et ce n'est pas son coéquipier au Milan, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui vous dira le contraire.
C'est un gagnant, une personne sérieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre 40 buts par an, mais il apporte quelque chose à l'équipe que peu apporte, parce qu'il n'est pas égocentrique sur le terrain. Il joue pour tout le monde.
Un joueur de 36 ans qui joue son dernier mondial avec un objectif, donc celui d'égaler Thierry Henry pour ses derniers matchs en bleu. L'histoire est en marche. Reste à espérer que le 18 décembre prochain sur les Champs-Élysées, nous reprendrons en chœur cette reprise des Beatles chantée par les supporters d'Arsenal en son honneur.
Ouais, c'est ça. Ouais, sa chanson à Arsenal. Et oui, ça paraît assez logique que le meilleur buteur français en activité avec le maillot des Bleus.
C'est ce que dit Kylian Mbappé.
Oui, mais ça fait. Giroud a toujours fait débat. C'est peut-être le fil rouge de sa carrière. Et puis attention, j'aimerais le défendre. Oui, il n'a pas marqué en un seul but en 2014 et 2018. Mais qu'est-ce qu'il est précieux dans le jeu. Bref, Giroud qui sera bien du voyage. C'est l'info RMC Sport ce matin. Autre info tout de suite. C'est Apolline de Malherbe de retour aux commandes d'Apolline Matin. C'est l'événement dans un instant sur RMC.